Alors, vous avez entendu dans les nouvelles, le bilan des nouveaux cas continue de baisser. En tout cas, depuis les 5 derniers jours, on assiste à une baisse notable et c'est encourageant. Le nombre total d'hospitalisations aussi a diminué. Hein, donc, même si aux soins intensifs, le nombre de personnes qui s'y trouvent s'est resté stable, il y a quand même un signe d'encouragement. Et si vous êtes à l'écoute à 13 heures, ben, ne manquez pas la conférence de presse que va donner François Legault et Christian Dubé avec le docteur Arruda. Il va sans doute être question de ces 5 dernières journées là, qui nous permettent d'espérer le meilleur pour la suite. Alors ça, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Ça veut dire que, bon, il y a quand même un respect des mesures. Peut-être que le couvre-feu, finalement, aura un impact certain. Et que tout ce qu'on vit en ce moment, puis là, on vient de parler, vous voyez, de ce qui est essentiel, pas essentiel pendant une heure, on va espérer que le 8 février, on puisse rouvrir les commerces. Et oui, il faudra quand même, les gens me posent la question, pensez-vous qu'on va quand même être obligé de porter le masque puis de suivre ces mesures sanitaires pendant longtemps? Moi, je pense que oui. Je pense que ça risque de rester partie de nos vies pendant pas mal plus longtemps qu'on l'aurait souhaité. Alors, ça, il faut vivre avec cette idée-là. Je pense que ça fait partie de ce qui s'en vient. Il y a l'OMS qui disait cette semaine, regardez, là c'est une pandémie, il y en aura d'autres. Moi, je pense qu'il ne faut pas commencer à avoir la prochaine tout de suite parce qu'on va déprimer longtemps. Mais se dire que se laver les mains, porter un masque quand on sort, avoir cette distance de 2 mètres, ça sera ça. Ça fera partie de notre routine. Il faudra l'incorporer. Mais ça ne nous empêchera pas de vivre. Et certainement, ça va éviter qu'il y ait trop de gens qui meurent. Une chose est sûre, puis là, on va en parler au cours de la prochaine demi-heure, c'est que cette pandémie a eu des effets sur des maladies qui étaient déjà problématiques. On a pu voir à quel point notre système de CHSLD, on le savait, mais là, ça a été confirmé, puis ça nous a pété au plein visage. Il était fragile. CHSLD, on le sait, la gestion était déjà déficiente. La solitude des gens âgés aussi, on en a parlé, mais peut-être pas assez. La solitude en général, mais chez les gens qui souffrent de maladies dégénératives du cerveau, c'est un vrai problème. On pense aux gens qui souffrent de démence, d'Alzheimer. Et là, vous l'avez peut-être vu, il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine parce que le mois de janvier, c'est le mois de l'Alzheimer, chez nous aussi. Et l'OMS disait qu'il y a un nouveau cas d'Alzheimer toutes les 7 secondes dans le monde. C'est vite, ça, 7 secondes. Comptez, vous allez voir un nouveau cas chaque 7 secondes. Nous avons la chance d'avoir au Québec un grand spécialiste de l'Alzheimer. Il est professeur titulaire au département de médecine et de psychiatrie à l'Université McGill. Il est directeur du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. Le docteur Jude Poirier est avec moi. Bonjour, Jude.
Bonjour Isabelle.
Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. En fait, on se parle au moins une fois par année au mois de janvier.
C'est la période, c'est ça, de sensibilisation à la maladie.
Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Dr Poirier, sur le fait là, qu'effectivement, bon, quand on regarde l'OMS qui nous dit un nouveau cas toutes les 7 secondes, c'est sûr que la pandémie n'a certainement pas aidé tous les gens qui sont au problème avec des maladies qui touchent l'Alzheimer, que ce soit la démence ou autre maladie dégénérative du cerveau.
Oh, tout à fait. En fait, je vais être très honnête avec toi. Nous, les spécialistes qui travaillons avec les Alzheimer depuis des années, on se doutait que l'isolation sociale, le confinement aurait un impact négatif. Mais on n'a jamais suspecté à quel point ça affecterait les gens qui souffrent d'Alzheimer et des maladies apparentées, comme on les appelle. C'est beaucoup plus sérieux qu'on avait même anticipé.
Pouvez-vous nous donner un ordre de grandeur, d'idée? Avez-vous des chiffres là-dessus, Dr Poirier?
Ben, écoute, je peux te dire, par exemple, que quand on regarde les gens qui sont décédés en CHSLD, il y en a 70 % de ces gens-là qui avaient un Alzheimer ou une maladie apparentée. Mes collègues qui font des suivis au niveau de la mémoire dans ces institutions-là m'ont dit que les vitesses de déclin étaient faramineuses pendant les périodes de confinement et d'isolation. Tu sais que moi, au centre de recherche, je travaille avec les enfants des gens qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, ils ne sont pas malades, mais ils ont un risque élevé. Et on a vu, nous, des gens nous arriver. Ça n'arrivait pas souvent avant, mais on a de plus en plus de ces enfants-là où on a vu apparaître les symptômes de la maladie, alors qu'on s'attendait que ce soit beaucoup plus long dans le temps avant que ça apparaisse, encore une fois, résultat du confinement et de l'isolation sociale.
Mais quand vous dites les enfants de l'Alzheimer, là, c'est pas des enfants, c'est des adultes, c'est des gens...
C'est des adultes âgés, 65 ans, 60, 65 ans et plus, qui ont des parents Alzheimer et qui ont accepté de rester avec nous pendant de nombreuses années pour faire toutes sortes d'évaluations biologiques, d'imagerie cérébrale, des tests de mémoire, de reconnaissance des odeurs. Bref, on essaie de comprendre la maladie avant qu'elle arrive, parce que ces enfants, par définition, sont à haut risque d'avoir la maladie un jour.
Comment l'isolement intervient dans la maladie d'Alzheimer?
Oh, tu sais, toutes les fois qu'on s'est rencontrés depuis quelques années, quand tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire de façon proactive, bon, je ramenais toujours des choses que les gens ne veulent pas entendre. L'exercice a un effet surprenamment bénéfique pour stabiliser, ralentir la progression de la maladie. Donc, son inverse est vrai. S'il y a peu ou pas d'activité physique, on voit une maladie d'Alzheimer qui progresse plus vite. L'activité cognitive, donc faire fonctionner ses méninges, tu sais, je compare toujours notre cerveau à un muscle, plus on l'utilise, meilleur il est, moins on l'utilise, pire il est. Ben, en isolation sociale, évidemment, on ne s'en sert pas beaucoup de notre muscle cérébral et il va tout simplement se laisser aller au processus dégénératif. Puis finalement, la socialisation, on l'a expliqué dans le passé, quand vous socialisez avec quelqu'un, vous faites appel à votre mémoire des odeurs, votre mémoire des images, vous cherchez des noms, vous cherchez des événements dans votre tête, vous faites marcher vos neurones. Et si vous voyez personne, ben essentiellement, vous laissez vos neurones au repos, avec comme conséquence une maladie qui progresse plus vite.
Tu parles de la mémoire des odeurs, puis un des symptômes de la COVID-19, c'est de perdre l'odorat.
Oui. Et en fait, on commence à se demander si les gens qui n'ont pas cette vulnérabilité intrinsèque ne seraient pas aussi déjà plus vulnérables à la COVID. Donc, d'un bord, quand vous commencez à montrer des incapacités à reconnaître les odeurs, ça vous identifie comme quelqu'un qui est à risque d'un Alzheimer un jour. Puis en parallèle, on voit que le virus s'attaque à ça. Mais tu sais que jusqu'à la semaine dernière, on n'était pas certain que le virus s'attaquait au système nerveux central. On savait qu'il s'attaquait aux vaisseaux sanguins, les poumons, le cœur, parfois même le système de coagulation du sang. Mais la semaine passée, il nous est sorti des images assez spectaculaires de virus à l'intérieur des neurones de gens qui sont décédés et qui ont laissé leur cerveau à la science. Et on voit le virus dans les neurones du cerveau de ces gens-là.
Ah oui, mon Dieu, c'est fascinant ça!
Ça m'a énormément surpris parce que nous, on essaie de faire passer des vaccins, des molécules pour essayer de ralentir, prévenir l'Alzheimer. Pas on a de la difficulté. Il y a une barrière naturelle qu'on appelle la barrière sang-cerveau qui est là pour empêcher des grosses molécules, évidemment des virus et des bactéries, d'entrer dans notre cerveau le plus possible. Mais pour une raison qu'on comprend pas trop en ce moment, ben, on a découvert le virus est non seulement dans le cerveau, mais il est dans les neurones.
Et c'est comme si notre cerveau était, ou notre corps est fait en sorte que tout pour protéger notre cerveau, hein?
Oui.
Et là, ce que tu nous dis, c'est que visiblement, on se rend compte que la COVID arrive à passer à travers ces barrières de protection et que ça se rend même jusqu'aux neurones. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ou apprendre de ça, du lien entre la COVID et l'Alzheimer, Jules?
Ben, je peux te dire, c'est les virus en général. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 sur le virus qu'on appelle l'herpès simplex 1, qui est un virus qui vous donne normalement des problèmes de peau. Tout le monde a eu ça dans sa vie. On a eu des feux sauvages. Mais il y a une petite...
Très commun, hein? On dit que plus de 70% de la population serait porteuse, d'ailleurs, de ce type d'herpès-là. Ouais.
Et on avait une hypothèse dans les années 90. Mais peut-être que, dans le fond, il y a des gens qui sont plus vulnérables à ces virus-là et qui auraient entré dans le cerveau. Donc, j'avais étudié notre belle banque de cerveau à l'hôpital Douglas et j'avais regardé une centaine d'Alzheimer et une centaine de sujets qui n'avaient pas eu la maladie d'Alzheimer dans 5 régions du cerveau. Et ma très grande surprise, j'ai détecté le virus de l'herpès autant chez les sujets normaux que chez les sujets Alzheimer. Il n'y en avait pas plus en Alzheimer. Il n'y en avait pas moins souvent que chez les contrôles.
Mais il était là.
Il était là à 80% du monde. Ça m'avait surpris. Et ça a été confirmé par après par d'autres chercheurs. Et là, on voit d'autres virus de la famille de l'herpès, l'herpès 6, l'herpès 7, qu'on détecte aussi dans le cerveau des sujets Alzheimer, aussi chez les sujets normaux, mais un petit peu plus souvent dans l'Alzheimer. Donc, notre système immunitaire, on sait qu'il nous défend contre le cancer, il nous défend contre les virus, les infections, mais il est clair qu'il nous défend aussi contre des maladies comme l'Alzheimer, c'est clair.
Mm-hmm. C'est tellement intéressant tout ce que tu nous racontes. On est en compagnie du docteur Jude Poirier. On va aller à la pause, mais avant, j'aimerais qu'on parle à Nicolas. Bonjour Nicolas, vous avez 80 ans. Vous vous occupez de votre sœur aînée qui a 87 ans. Comment ça se passe pour vous là depuis les derniers mois que la pandémie?
Bien, on est toujours enfermés à la maison. Alors, c'est très dur pour moi. Elle ne fait pas juste l'Alzheimer. Elle fait même la démence aussi. Mm. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle dit. Elle sait même pas qu'est-ce qu'elle veut dire. Tout d'un coup, elle pense le jour, c'est la nuit, c'est le jour. Toutes les deux heures, je vais aller dormir. Elle se lève après, elle dort pas. Je lui dis, marche sur ta marchette. Elle oublie. Elle marche pas. Après, elle me dit, j'ai mal au dos. Je sais plus quoi faire. Moi, là, je commence à être vraiment... Je souhaite la mort. Pour moi et pour elle qu'on finisse là, c'est trop dur, trop dur. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas.
Vous êtes tout seul pour vous occuper de votre sœur?
On n'a pas de famille, on n'a personne. Maman est décédée, mon autre sœur est décédée. J'ai pris soin d'elle pendant 10 ans. Maintenant, je prends soin de la plus vieille, 87 ans. Et je ne sais plus quoi faire.
Vous avez eu du soutien, Nicolas? Est-ce que vous avez reçu du soutien du CLSC?
Mais ils ne peuvent rien faire. J'ai juste pour le bain. Juste pour le bain. Elle oublie, elle ne sait même pas où elle est. Elle sait, ouais. Vous allez lui parler, elle ne sait pas quoi répondre. Tout ce qu'elle sait, ça va bien, merci, ça va bien. Mais pas plus que ça. Mm-hmm. Mais faire une conversation, hein, on ne peut pas.
Est-ce qu'elle est en bonne santé physique par ailleurs?
Pas tout à fait, parce qu'elle a toujours mal au dos.
Ouais.
Je lui fais les filtrations toutes les 2-3 mois. Alors, c'est très difficile aussi.
J'imagine que c'est épuisant pour vous aussi là, de voir ouais. votre sœur comme
et on
ça.
On peut pas la placer parce que j'ai la place. Ils vont mettre dans une chambre, ils vont l'oublier ici. Ben, elle va pourrir plus après. Au moins ici, je m'en occupe un peu. Je prends soin d'elle, je lui donne les médicaments, tout ça. Mais il n'y a pas quelque chose pour l'Alzheimer, pour la démence, je ne sais pas.
Ouais, docteur, je vais demander à Jude Poirier peut-être de réagir à l'histoire de Nicolas. Merci beaucoup de votre appel. Tout de suite après la pause, toutefois, Jude va nous dire un peu, parce que bon, ce que Nicolas nous dit, il y a beaucoup de Québécois qui le vivent aussi. Hein. La notion de dire, est-ce pas vrai que je vais placer mon proche? Déjà que l'Alzheimer, c'est en plus, je le mets en CHSLD, ils vont l'oublier. Vous avez vu ce qu'il a dit? Ils vont l'oublier, ils vont pourrir là tout seul, ma sœur. C'est sûr qu'on veut pas ça pour nos proches. Tout le monde a peur d'aller là maintenant. Là. C'est comme la grande frayeur. 514-790-9850. Dites-moi si un de vos proches atteint de la maladie d'Alzheimer a souffert beaucoup plus à cause de la pandémie. Jude nous disait d'ailleurs que le cerveau, comme les autres aspects de notre corps, est affecté par le virus, hein, par les virus en général. 1-866-790-9850 pour nous joindre un peu partout au Québec. Jude Poirier est avec nous. Il est professeur titulaire au département de médecine et de psychiatrie à McGill. Il s'occupe du Centre de prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut Douglas. C'est un des grands spécialistes internationaux qu'on a la chance d'avoir au Québec. J'aime bien le rappeler, Jude, parce que je trouve que c'est important de le dire, que vous êtes un de ceux qui a contribué à nous en apprendre beaucoup un peu partout sur la planète. Là, on fait appel à vous, votre équipe. Rappelez Luna, Jude Poirier a contribué à trouver un des gènes principaux hein, à la base de cette maladie.
Exactement. Le gène principal, il y a 3 ans, on a découvert une nouvelle anomalie génétique, mais qui, celle-là, vous protège contre la maladie d'Alzheimer, ce qui nous emmène essentiellement à reconsidérer nos mécanismes et essayer de trouver une façon de bloquer la maladie, mais en utilisant des gènes de protection plutôt que simplement voir la génétique comme un risque inévitable d'avoir la maladie. Mmh. Il y a des chanceux qui ont des gènes de protection dans la population, puis on va essayer d'apprendre d'eux autres.
Oui, exactement. Ça, c'est intéressant tout ce bout-là, parce que oui, c'est vrai que on le sait, le déclenchement de cette maladie-là s'explique par 2 facteurs. Il y a l'hérédité, hein, le facteur génétique qui est important. Est-ce qu'on peut dire qu'il est dominant?
Malheureusement, oui. On parle de 60 à 70 % du risque d'avoir la maladie d'Alzheimer et d'origine génétique. Le reste étant lié à nos choix, notre style de vie, nos choix de vie qu'on fait, que ce soit au niveau de l'alimentation, l'exercice physique, ou la cigarette, par exemple. On a même l'obésité, l'hypertension. Il y a plein de choses, finalement, qui font comme un peu comme le volume d'une radio qui augmente ou diminue le risque. Donc, la génétique vous donne le risque, puis vous augmentez ou diminuez votre risque avec des facteurs environnementaux et liés au style de vie.
Et là, le style de vie est modifié beaucoup par la COVID, par la pandémie. Là, on ne peut pas sortir. Les gens, on l'a dit tout à l'heure, là, vous ne pensiez pas qu'il y aurait un si grand impact de la pandémie sur les gens qui souffrent déjà d'Alzheimer. Nicolas vient de nous parler des soins qu'il est obligé d'apporter seul à sa sœur aînée de 87 ans. Il est tout seul. C'est fou, là. Il y a même des auditeurs qui me disent s'il a besoin d'aide, je peux aller le remplacer, me dit Suzanne, quelques heures s'il veut. C'est vraiment gentil de votre part, Suzanne. Malheureusement, en ce moment, ça ne peut pas marcher comme ça, mais on entendait bien dans la voix de Nicolas, Jude, qui était complètement désespéré. Il disait qu'il souhaitait la mort même parce que il disait, je ne veux pas qu'elle aille pourrir en CHSLD. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'était sa question. Avez-vous un peu de réponse pour lui?
T'en as glissé un mot, tu sais. C'est sûr que les CHSLD, normalement, devraient être capables d'offrir du répit, pas simplement le bain. Là, il s'agit d'insister un peu beaucoup. Bon, il faut comprendre qu'en période de pandémie...
Les CLSC, vous voulez dire?
Ouais. Les CLSC, oui, ouais. Les CLSC. Donc, c'est sûr qu'en période de pandémie, on a essayé de retirer les soins, les gens de la santé, dans le fond, qui s'occupaient un peu plus du domicile pour nous les renvoyer dans les hôpitaux. C'est une conséquence des 8000 gens qui ont quitté le système à cause de la COVID parce qu'ils étaient malades ou parce qu'ils ont abandonné. Donc, on a eu un déplacement d'expertise qui fait que c'est compliqué maintenant d'avoir des soins à la maison. C'est pas impossible, puis c'est compliqué. L'autre source que les gens oublient souvent, puis je vais insister beaucoup sur ça, c'est ce qu'on appelle les sociétés Alzheimer du Québec. Il y en a dans chaque région. Et eux se spécialisent à donner de l'aide, du répit à la maison. Ils viennent, ils passent un après-midi. Ça permet à la personne, le conjoint, d'aller faire la commande, d'aller faire des commissions ou juste s'asseoir dans un coin puis lire tranquille sans avoir à s'occuper de l'aidant ou de la personne malade. Et ces gens-là sont très dévoués. Par contre, dans la première vague de la pandémie, la santé publique leur interdisait d'aller aider. Donc, on les a vus quelquefois à l'extérieur, aller voir les gens au travers des fenêtres. C'était souvent les gens des sociétés Alzheimer qui, malgré tout, essayaient de faire quelque chose.
Oui. Puis il y a Baluchon aussi, hein, Baluchon Alzheimer, juste on peut peut-être nommer. J'ai le numéro de téléphone pour les gens là, qui nous écoutent. Le numéro sans frais, 1-855-762-2930. Vous pouvez également leur écrire à info@baluchonalzheimer.com. C'est vraiment un service de soutien. Hein?
C'est un service de soutien, mais il faut le voir à plus long terme. Donc, ils viennent, ils restent quelques jours. On parle d'une fin de semaine, mais plus souvent même une semaine complète pour donner un répit total. On demande carrément à l'aidant de s'en aller, de partir. Anciennement, on disait aller en voyage, mais là, c'est un peu compliqué. Ouais.
Donc, les aidants viennent prendre la place de l'aidant naturel. Ils viennent avec leur baluchon, d'où le nom. Leur symbole, leur logo, c'est d'ailleurs un petit baluchon, parce qu'ils viennent s'installer chez la personne à aider, puis l'aidant naturel s'en va prendre du répit ailleurs pour pouvoir se refaire une petite santé. Hein? Ouais.
Exactement. Donc, un peu pour faire sortir un peu la vapeur, oui, comme on le sent chez Nicolas. Et il est pas seul. Hein. J'ai entendu ça là, depuis une dizaine de mois.
Il y a 80. Il y a 80 ans, Nicolas.
C'est pas anormal. Et quelque chose que tu n'avais peut-être pas réalisé, Isabelle, c'est que tu sais...
Des affaires que je réalise pas, Jude. Ça, là.
on a perdu beaucoup de gens en CHSLD. Et puis là, le réflexe que moi, j'ai entendu, c'est bon, ben, il va y avoir de la place. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand ça s'est libéré, ces places-là, ben, on s'est préparé pour la deuxième vague. Donc, on les a pas remplies immédiatement, ces places-là. On a créé des endroits dans les CHSLD pour pouvoir accueillir, si jamais ça arrivait, des salles ou des bouts de building complets où on aurait une zone chaude, finalement. Mais ça a eu comme conséquence qu'ils n'ont pas augmenté les entrées en institution. Ça a même pas tellement bougé, je te dirais.
Ouais, non. On a Viviane qui nous appelle. Bonjour, Viviane.
Bonjour. J'appelle puisque on s'occupe de ma belle-sœur Lorraine, qui vit à Sherbrooke en CHSLD. Elle a 79 ans. C'est nous qui sommes répondants, mon mari et moi, pour elle parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle a subi une fracture de hanche en août dernier et depuis sa fracture de hanche, elle a tellement subi de déménagement de chambre, changement de personnel. Ouais. Elle est maintenant rendue en CHSLD. Elle est passée deux fois par le centre de confinement. Alors, on trouve ça tellement... Elle a dégénéré là, de 75-80% sa maladie d'Alzheimer. Elle n'est plus capable de codifier du tout de nouvelles données. Là. Demande-lui pas si elle, ce qu'elle a mangé pour dîner 15 minutes après. Elle ne le sait pas.
C'est alors, très vrai ce que vous dites, Viviane. C'est vrai ce que vous décrivez, le changement. Tu sais, le charroyage, là, tu vas là, tu ressors, tu vas à telle autre place, tu ressors. Ça, on en avait parlé avec Jude l'année dernière, je vous en souviens. Vous me permettrez, Viviane, d'aller lui poser une question là-dessus. C'est un fait, là. Il faut éviter de déplacer, de changer les repères des gens qui ont l'Alzheimer.
Exactement. Ça ne fait qu'empirer. Dans le cas, par contre, de cette situation-là, il faut comprendre que quand on doit aller en chirurgie, qu'on prend des médicaments pour endormir la personne, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ça va accélérer la maladie d'Alzheimer, les médicaments qu'on utilise pour endormir. C'est un effet secondaire, si vous voulez, d'une chirurgie. Ça aide pour la maladie. On pense que ça débalance la chimie, mais en plus, il y a eu des mouvements. Et plus récemment, du confinement, on a comme une convergence d'effets terribles.
Ouais. Je retourne à vous, Viviane. Donc,
elle n'en a plus du tout de mémoire. C'est terminé. Ouais. Et là, 79 ans, là, une dame, une aquarelliste, ça faisait du vitrail. Une belle dame, rendue tellement modifiée. On se questionne tellement là, sur l'aide médicale à mourir. Je sais que c'est une grosse question, Dr. Gauthier, là, mais elle, là, c'est était consciente, elle ne voudrait vraiment pas se voir comme ça. Là.
Ouais. Dr. Poirier, pour l'aide médicale à mourir et l'Alzheimer, on en est où, là?
Ben, c'est ça. Ça bloque à Ottawa, comme vous avez entendu. Ouais. Il y a toujours, on veut pas mettre les problèmes de santé. On ne croit pas à la détresse de la santé mentale. Donc, on veut pas la mettre dans le paquet. On veut la séparer de la détresse physique. Évidemment, je suis contre ça. J'ai toujours été un des ceux qui fait du lobby pour qu'on inclue la santé mentale et en particulier la maladie d'Alzheimer. En Belgique, du côté de la Suisse, ça se fait depuis 2005. Donc, c'est 15 ans. On a quand même appris d'eux autres. C'est pas quelque chose qu'on ferait où il y aurait des énormes cataclysmes. Mais bon, du côté d'Ottawa, ils sont très frileux d'un point de vue politique, là, puis ils osent pas. Ils ont séparé le dossier en deux, puis là, apparemment, ils ont demandé des délais pour encore une fois reporter les changements à la loi, là.
Oui. On a Sylvie qui est avec nous. Bonjour Sylvie. Vous, c'est votre père qui souffre d'Alzheimer. Sylvie, est-ce que vous avez pu voir l'effet de la pandémie sur sa maladie?
Oui, j'ai vu l'effet, mais j'ai vu l'effet sur moi aussi. Là.
Ah, ouais.
C'est catastrophique parce que mon papa, qui a 90 ans, était dans une résidence pour les gens qui avaient des gens non autonomes et aussi semi-autonomes. Donc, lui, il avait un grand appartement. Je payais les services à la carte. Sauf que là, avec la pandémie, bon, on a manqué de personnel partout. Et lui, ses médicaments, il les voulait à 8 heures pour dormir. Ça n'arrivait plus dans les dernières semaines, même derniers mois. J'ai fait plusieurs rencontres. J'ai même offert d'aller les chercher à la pharmacie le soir que moi, j'allais aller lui porter. Puis ce qui s'est passé, c'est que la dernière intervention, il les a eues à 10h30 de peine et de misère parce que j'ai téléphoné à tous les postes. J'ai sonné à la porte pendant 20 minutes. Il n'y avait personne qui répondait. Je pensais qu'il y avait une tuerie dans la résidence. Alors, il y a quelqu'un qui est arrivé en renfort pour aider. Et j'ai fini par rentrer avec cette personne-là. Je suis arrivée en haut pour aller chercher les médicaments. On les avait perdus. On m'a répondu, ben, il les aura pas ce soir.
Alors, voyons donc, êtes-vous sérieux?
Ouais. Oui, parce que c'est une agence, donc eux autres, ils sont un peu, ils ont moins de, je veux pas dire moins de cœur, mais en tout cas, sont moins attachés au personnel puis aux gens qui travaillent là.
Ils sont débordés puis savent plus vous donner de la tête?
Ouais, c'est ça. Puis moi, j'ai dit, écoutez, appelez le 8-1-1, donnez-moi n'importe quelle pilule, je la remplace demain, mon papa va dormir, c'est pas vrai qu'il dormira pas. Puis dans la nuit, on a fini par trouver les médicaments du lendemain que je suis allée porter moi-même. Puis dans la nuit, il a fait un infarctus. Alors, infarctus signifie hôpital. Hôpital, COVID sur l'étage. J'ai été confinée. Suite à ça, on m'a dit, il peut pas retourner là. Alors, en 24 heures, j'ai trouvé une autre résidence près de chez moi. Un autre RPA privé pour les gens Alzheimer. Mais là, j'ai un autre problème. Mon papa ne reçoit pas les soins d'hygiène auxquels il a droit. Je fais des vérifications. Je vais là tous les jours. Je vois son incontinence. Et ça coûte un bon montant. Je peux vous dire 530 $. parce que c'est 150 soins d'hygiène deux fois par jour et c'est 380 pour les soins d'incontinence. Mon père marche, il est en forme physiquement, je peux le faire marcher dehors, il a encore sa tête, il rit, il danse, il chante quand moi je suis là, puis il me dit « qu'est-ce que je fais ici? » Personne ne parle, ils sont enfermés dans leur chambre. J'ai dit, mais papa, c'est la COVID, on peut rien faire. Mm-hmm. Mais là, la crainte que j'ai, c'est qu'en ce moment, la directrice, ça se passe pas bien. J'ai fait une plainte au CLSC pour les soins. Et on m'a dit qu'ils étaient en train de regarder sur cette résidence-là. Ils ont plusieurs plaintes. Alors, le choix, ça serait de le déménager pour qu'il soit dans une résidence adaptée à Alzheimer, mais moins pire, avec encore du monde qui parle. Ils m'ont dit, là-bas, c'est plus la fin de vie. Mais je fais quoi? Ils viennent déménager, là, il est déjà super anxieux. Là, il faut que je le redéménage, mais où? Dans quel RPA? C'est sûr qu'ils vont pas me donner une adresse. Ils peuvent pas là dire celle-là est mieux qu'une autre. Mais là, moi, les recherches, là, je vais vous dire de quoi, là, j'ai plus de larmes que de sourire. Fait qu'hier, j'ai même pas été le voir parce que j'étais trop anxieuse puis je veux pas y transférer mon anxiété.
Je comprends.
Mais mon papa, il est vraiment un Alzheimer pour vrai. Il en manque des bouts pour vrai. Mais c'est encore un humain intelligent qui chante, qui danse. Il n'a pas tout perdu. Fait que je fais quoi? Je le laisse là, puis j'attends. Je le transfère, je manque mon coup. C'est horrible. Une chance que la Société de l'Alzheimer existe. Une chance, je vous jure. Une chance. Si je les avais pas, moi, j'aurais pas tenu le coup. C'est incroyable. Une chance qu'ils sont là.
Et Viviane, écoutez, sincèrement, je vous écoute, puis je compatis tellement ce que vous vivez. Là. Je suis sûre que ça doit troubler énormément d'auditeurs qui vivent la même chose. Je comprends que c'est pas possible pour vous de le prendre chez vous, par exemple, à court terme, en attendant que vous trouviez un autre endroit, parce que ce que vous me décrivez, là, c'est sûr que je vous dis pas quoi faire, mais si c'était mon père, je le changerais de place, là, parce que si vous payez pour des soins qu'il y a pas, c'est pas normal. Alors, en attendant que ceux qui regardent les plaintes se branchent, ben, je me dis, peut-être le prendre à la maison, est-ce que ça serait une possibilité pour vous?
Ben, c'est une possibilité pour moi de l'accueillir, mais quand je l'ai eu, c'était très lourd parce que mon père, moi, j'ai beaucoup d'escaliers. Alors, il est tombé, je voulais pas qu'il se blesse. J'ai une petite rivière en arrière. Mon père, il est assez conscient pour dire, moi, là, si je perds ma tête, là, je vais aller dans la rivière. Hein. Il réclame le suicide, mon père. Ça y arrive de me dire, j'ai enlevé, il y avait un marteau chez lui, je l'ai enlevé. Il disait, c'est un bon coup, là, dans le temps, moi, je viens des Îles-de-la-Madeleine, un bon coup, là, tu donnes ça au cheval, il tombe à terre, moi, ça va marcher. Il me le réclame, il veut
vous
s'en
dire,
aller.
C'est ça, il y a des moments de lucidité assez grands pour être capable de vous dire à vous, sa fille, Sylvie, garde, je vais en finir. Là. C'est difficile, ça, ouais.
Oui, puis suite, là, j'y ai proposé que peut-être on va déménager. Il m'a dit, mais t'as coup que c'est pire.
C'est ça,
t'as
exact.
T'as coup que je suis pas bien. Fait que là, j'ai dit, ben papa, je le sais pas. T'sais. Il dit, mais est-ce que je peux attendre puis changer d'idée? Mais tu sais, c'est pas comme ça, là. Il faut prendre des décisions, c'est difficile. Puis là, j'y ai demandé, mais qu'est-ce que tu penses, papa, là? Parce qu'il était comme un peu lucide. Il me dit, ben vraiment, là, il dit, si je veux pas compter de m'entrer, je suis pas heureux ici. Mais tu sais, moi, on peut pas me dire ton père est Alzheimer, il est pas conscient de ce qu'il dit, pas quand il me regarde dans les yeux. Tu sais, c'est je suis pas heureux ici. C'est quand même que t'es Alzheimer, tu peux pas passer par-dessus une phrase comme ça. Il est pas bien. Puis lui, il veut du monde, il est sociable. Ben les gens ils me disent, ah, mais tu sais, ça achève, là. Il sera plus sociable, il s'en rendra pas compte. Mais je peux pas, moi, attendre qu'il se rende pas compte. C'est pas humain, ça se fait pas de dire, ah, mais tu sais, l'Alzheimer, ça va aller vite, là, puis à un moment donné, il va être dans son lit, puis il va être à la bonne place. Ben non. Moi, je laisserai pas un bébé dans la couchette parce qu'un jour, il va marcher, puis il va être capable de sortir. T'sais, tu fais pas l'inverse à un bébé, mais tu fais pas l'inverse à une personne âgée non plus. C'est inhumain. Les RPA, je le sais qu'ils sont débordés, mais ils sont pas surveillés. Le CLSC a beaucoup de difficultés à surveiller. Alors, ils comptent sur nous, les personnes, pour le dire. Mais le dire, c'est difficile. Moi, mon mari, il était pas d'accord. Il m'a dit, tu sais, c'est peut-être dangereux là qu'on commence à souligner ça, qu'est-ce qui se passe. Mais oui, mais si c'était moi, tu le dirais pas. Il dit,
mais vous faites référence à toute l'omerta dans les résidences, dans les CHSLD, où effectivement, on a vu là, qu'il y avait parfois là, du mauvais service après, puis des sévices même. Bon. Sylvie, là, c'est vous nous avez dit tellement de choses, puis en même temps, je compatis avec vous également. Puis je n'ai pas de réponse qui viendrait régler votre problème tout de suite, mais regardez, il y a Suzanne aussi qui dit que, pareil, là, c'est la même Suzanne là, qui est bien généreuse, qui veut aider tout à l'heure, qui a dit qu'elle peut faire des repas, puis aller emporter aux gens qui ont besoin. Si vous voulez nous laisser vos coordonnées, ceux qui nous écoutaient, là, puis qui avaient peut-être besoin de ressources, Suzanne, elle se propose. J'ai ses coordonnées ici, mais il y a aussi des gens qui disent qu'ils ont fait affaire avec des ressources, qui ont trouvé des bonnes résidences. Donc, il y a moyen d'en trouver. Il y a tellement de gens là qui veulent intervenir à la suite du témoignage de Viviane tout à l'heure, puis là, de Sylvie, qu'on va poursuivre sur ce sujet. On s'adapte. Je pense que vous avez besoin de témoigner de ça, là, parce que c'est un gros 10 mois qu'on vient de passer. Puis on vient d'allumer là, comme quoi la maladie d'Alzheimer a pris beaucoup de place, là, finalement. On n'en parlait pas. On l'a comme mis de côté parce qu'il y a la COVID qui prend toute la place. Mais il y a un lien. Et l'isolement vécu par les gens âgés qui ont déjà des problèmes de dégénérescence ou de maladie apparentée, ils en payent le prix aussi de ce confinement, de cet isolement. Jude Poirier, toujours avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On revient tout de suite après. 514-790-9850. Jude Poirier est un grand spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Jude, on a entendu l'histoire de Viviane, puis là, celle de Sylvie qui était... C'est des cris du cœur incroyables. Sylvie, devant le désarroi de son père de 90 ans qui n'est pas complètement parti, il reste de la lucidité assez pour savoir que c'est pas ça qu'il veut comme fin de vie. Je veux dire, on est tous touchés par ça parce qu'on a tous des proches qui se sont trouvés dans une situation comme celle-là ou qui le vivent en ce moment. Je peux vous dire, le nombre de courriels que je reçois, là, c'est foudroyant. Puis les mauvais services, puis les mauvais traitements. Puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus pour Sylvie et pour les autres, Jude?
Écoutez, de toutes les années que toi et moi, on fait notre mise à jour à tous les janvier, c'est peut-être le plus beau témoignage qu'on a eu. Témoignage réaliste, réel, d'impact. C'est sûr que c'est dans le contexte de la pandémie. Nos travailleurs de la santé, là, ils sont à bout du bout. C'est sûr qu'on peut les blâmer, puis en même temps, on peut pas les blâmer. Je veux dire, c'est comme ça, puis ils font leur possible dans tout. Et fait que là, écoute, je suis dans un énorme CIUS, moi, de l'Ouest de Montréal, et puis quand vient le temps de signer les priorités, c'est toujours un petit peu plus difficile quand on est du côté de la santé mentale ou de la gériatrie. On le voit avec notre premier ministre, qui dit c'est important que les jeunes retournent en classe pour avoir une stimulation sociale, des interactions qui continuent à évoluer. En fait, c'est vrai aussi pour nos personnes âgées. La différence entre les deux, c'est que les jeunes sont moins susceptibles d'être très malades avec la COVID. Mais la justification pour les jeunes, c'est exactement la même pour les personnes âgées, surtout les gens qui sont en déficit cognitif.
Puis c'est tout aussi, puis on pourrait en parler longuement, puis il nous reste plus de temps, mais on refera la discussion une autre fois là-dessus. Mais je pense que la base aussi, c'est le traitement général des vieux, entre guillemets. Puis quand je dis ça, je fais exprès de dire ce mot-là, parce que pour bien du monde, c'est... Regarde les commentaires désobligeants qu'il y a eu sur « Ben oui, qu'est-ce que tu veux? » En fait, je te le dis, je serais mort anyway, là. Alors, c'est ça, là, c'est tout le traitement de la vieillesse de ces gens qui ont donné à la société, mais là, qui, entre guillemets, servent plus la société, alors que les jeunes, ça va être les futurs contribuables de demain. Ça peut être cynique, ce que je dis, mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Puis la vieillesse, on trouve pas forcément ça beau, on veut pas en parler, on veut pas que ça nous arrive, mais même si on le sait qu'on peut pas l'éviter. Il y a tout ça, je trouve, juste, qui fait qu'on les a oubliés complètement, les gens âgés, là. Et encore plus s'ils sont malades, hein.
Tout à fait, je suis assez d'accord avec toi. En fait, on me posait la question la semaine dernière dans une autre entrevue, tu sais, qu'est-ce que je pensais, moi, de la fameuse décision ou des décisions qu'il y aura à prendre. C'est notre système de santé craque et on doit faire du triage. Est-ce qu'on laisse passer un vieux puis on donne les soins à une jeune qui a du potentiel? Puis moi, ma réaction viscérale, ça a été, ben, imagine que tu as un cancer du cerveau, tu as un chirurgien qui a 40 ans d'expérience qui pourrait t'opérer, puis tu as un jeune qui sort de l'université. Mais tu vas me dire que tu vas privilégier le jeune parce que son potentiel est bon, mais ton cancer, crois-moi, c'est celui qui a l'expérience, tu veux, qui t'opère. On ne peut pas juger les gens juste sur une base chronologique. T'sais, lui, il est né avant lui.
Écoute, tout le débat sur ce qui est essentiel puis pas essentiel sur les objets puis les voyages, imagine, on veut pas ce débat-là sur les humains.
Exactement. Et tu me demandais tout à l'heure au niveau de la fin de vie, on joue aussi cette espèce de jeu, je dirais pas hypocrite, mais un peu à demi-couleur, dans laquelle on se prononce, on se prononce pas. Je trouve ça tellement triste. Il y a des sociétés qui ont fait le débat, je te mentionnais tout à l'heure la Suisse, la Belgique, la France est en train de le faire. Nous, on est toujours, toujours à la remorque. On attend toujours que les autres bougent, puis encore.
Pendant ce temps-là, il y a des gens comme Sylvie là, qui sont en plein désarroi, qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui me disent qu'il y a des ressources. Je vais les nommer après la pause, ces ressources-là. Préparez-vous si vous voulez prendre des notes. De toute façon, vous pouvez toujours écouter cette émission sur notre site. Vous allez sur l'onglet l'émission Isabelle. Le lien va être là, puis vous pourrez le partager également. Après la pause, on va parler à Chantal, entre autres, et à d'autres auditeurs. Nos lignes sont pleines. Les amis, je pense que vous avez besoin de parler de ça, puis vous avez surtout besoin qu'on vous aiguille vers des ressources, qu'on vous guide. Beaucoup de gens là, qui témoignent aussi par écrit, qui disent qu'ils n'en peuvent plus. Les aidants naturels au Québec qui ont la vie dure, là, puis qui ont été eux aussi un peu oubliés. On revient tout de suite après ceci. Il y a Annie qui dit « Mon père souffre d'Alzheimer, mais je pense que celle qui souffre le plus, c'est ma mère qui est proche aidante. » Tout un témoignage aussi là, qui est extrêmement souffrant. Il y a beaucoup de gens là, qui sont très touchés par les témoignages qu'on a entendus. Sylvie, entre autres, qui vous a beaucoup marqué. Là. Il y a même un camionneur qui me dit qu'il a pleuré dans son camion tellement c'était émouvant. Puis je pense qu'on a tous des images de ses proches qui ont pu vivre la même chose ou qui vivent ça. Chantal, bonjour, vous êtes aussi dans cette situation-là, hein, vous. Bonjour.
Bien sûr, moi je le suis de plusieurs façons. Que j'ai mon père qui a léger début d'Alzheimer, mais en fait, début depuis 10 ans, mais c'est comme c'est lent, je me plais à dire que c'est un début. Mm-hmm. Mais je suis une entrepreneur, je suis une aidante, je suis formée pour aider les gens, je suis formée à Alzheimer. Donc, pour moi, c'est dans mon quotidien, je suis toujours en contact avec des gens de cette clientèle-là, si j'ose dire ça comme ça. Donc, oui, le stress au départ, c'est un facteur important pour la maladie d'Alzheimer. Mm-hmm. Puis, si la personne, exemple, entend les nouvelles, c'est stressant. Si la personne voit son aidant stressé, c'est communicatif. Mm. Ça peut être très bien, tout simplement, que l'aidant là, ne peut pas avoir l'aide nécessaire. Donc, elle sent la surcharge. Elle sent. Ouais. Vous savez, les gens... Il y a des degrés de la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui sont ne se souviennent pas nécessairement de votre nom. Mais ils vous reconnaissent, vous savez, par le lien qu'ils ont créé avec vous. Ils vont savoir que vous êtes telle personne qui apporte tel lien affectif, mais ils ne pourront pas dire que vous êtes la fille. Mais ils vous reconnaissent. Donc là, si on se dit, oh, les gens sont Alzheimer, c'est pas grave si on n'y va pas, c'est faux. Ils sont conscients intérieurement qu'il manque quelqu'un, ils ne savent pas qui, mais ils savent que le lien qu'ils ont habituellement, parce que la routine est brisée, ça a des impacts, c'est caché ces impacts-là, là, parce qu'on n'est pas conscient de l'environnement, mais il y a des impacts lourds à tout ça. Mon père, je vous dirais, là, j'ai perdu ma mère en 2018, et il a vécu le stress d'être seul, de devoir vendre la maison, parce qu'il était encore... capable d'être à son domicile. Mm-hmm. Et là, bon, il s'est rendu compte par lui-même, il s'est rendu dans une résidence de personnes âgées. Il s'est fait une nouvelle amie, une chance. Parce que durant le confinement, il a pu aller rester chez elle. Mm-hmm. Et je vous jure, mon père, le fait d'être libéré du stress, du quotidien, de savoir est-ce que j'ai payé ma facture, est-ce que j'ai de l'argent, bon, peu importe, je vous dis, il a gagné 50%.
Ah oui, c'est fou, hein?
Oui,
allez-y, en terminant.
C'est ça, j'allais dire, j'ai une cliente pour laquelle j'étais là 3 fois semaine, mm-hmm. à raison de 5 heures par jour. Je l'aidais, on a créé des systèmes pour l'aider, elle, pendant qu'elle était seule, elle était dans son domicile. Et du jour au lendemain, la famille a dit, « Oh my God, elle va tellement bien, elle n'a plus besoin de Chantal. »
Ouais.
Je l'ai vu 4 jours après avoir cessé d'aller travailler là-bas, suite à la demande de la famille, et elle avait déjà perdu 50%. 4 jours.
Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut une stimulation constante. Là. On ne peut pas considérer que les gens vont s'emmiouter. Tout ça. C'est fort intéressant ce que vous nous dites, Chantal, sincèrement, parce que vous l'avez vécu comme proche aidante puis comme intervenante aussi. Merci beaucoup de votre appel. Jude Poirier, ce que Chantal nous dit aussi, c'est que, bon, il y a plusieurs choses. Les gens n'ont pas tous l'Alzheimer. Tu sais, c'est pas t'as l'Alzheimer ou tu l'as pas. Il y a des grades, il y a des niveaux. Ça peut être effectivement très long, mais ça peut dégénérer vite ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, on peut s'en rendre, on peut avoir perdu beaucoup de notre mémoire, mais quand même être capable de se rendre compte qu'on est un poids pour notre famille, puis que notre famille vit un stress. Il y a ça de un, puis après, il y a toute la question de la stimulation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Ah, tout à fait, je veux dire, il faut comprendre que c'est un spectre large, mais moi je dis toujours, je donne l'exemple, vous savez, il y a eu un diagnostic d'Alzheimer, il devrait arrêter de conduire. Non, absolument pas. On va faire ça plus tard et c'est ça pourquoi, en fait, c'est le médecin qui a l'autorisation de retirer le permis de conduire. C'est pas la famille, c'est pas les policiers, c'est le médecin. Parce qu'il est capable de fonctionner même s'il y a des oublis, des petits problèmes. Là où ça devient problématique, c'est quand il y a un problème de jugement qui apparaît dans la forme un petit peu plus modérée, ben là, le jugement, c'est crucial pour la conduite. Là, il faut enlever le permis de conduire. Mais c'est vrai que l'attachement émotionnel, il est là jusqu'à la toute fin, même quand il ne parle plus la personne, quand elle ne communique plus. Mais vous passez, vous donnez un baiser sur le front qui était quelque chose que vous faisiez du temps où tout allait bien, il va savoir c'est qui, il va savoir c'est quoi, il ne reconnaîtra pas le visage, mais il va ressentir le bien-être. Parce que ce sont des cellules cérébrales en plein milieu du cerveau qui ne sont pas touchées par la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est bien démontré.
Beaucoup de gens m'écrivent, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous disiez tout à l'heure, il y a 3 ans, on a découvert une nouvelle anomalie qui nous protégerait. On essaie de trouver un gène de protection. Il y a des gens qui en ont. Vous-même, vous êtes fils de parents qui, tous les deux, sont morts de l'Alzheimer, ou en tout cas de ses conséquences. Donc, j'imagine que pour vous et pour tous les autres Québécois touchés, ça vous intéresse de trouver ces facteurs de protection. Mais en attendant, à part le sudoku puis manger un régime alimentaire méditerranéen, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? C'est la grande question que tout le monde se pose.
Bon, écoutez, j'ai toujours le sommaire sel, sucre, gras. Pourquoi le sel? L'hypertension est un facteur de risque bien démontré. Vous ne devenez pas rouge quand vous êtes hypertendu. Il n'y a pas moyen de savoir que vous êtes hypertendu. Mais si vous ne prenez pas soin de votre hypertension, je pense qu'il y a 14 médicaments pour le traiter, ben, ça devient un facteur de risque à Alzheimer. Donc, vous pouvez peut-être échapper à la crise cardiaque, mais il y a une deuxième maladie qui vous attend. On a découvert en 2020, moi je disais toujours dans l'ancien temps, l'année passée, que c'était quand on avait l'hypertension, taux de cholestérol élevé, ou des problèmes de graisse dans le sang, obésité à 40-50 ans. L'année passée, il est sorti une étude dévastatrice qui nous dit non, entre 20 et 30 ans, si vous êtes obèse, si vous avez des taux de cholestérol élevés qui ne sont pas contrôlés, si vous avez de l'hypertension, ça va influencer votre risque d'Alzheimer dans 45 ans, à 20 ans.
Incroyable. Donc, donc, faut s'occuper de soi. Jude, on va se reparler dans pas long parce qu'il y a tellement de gens là, qui ont besoin d'informations. Je garde les dernières secondes. Merci beaucoup de votre intervention, de votre présence, de vos beaux conseils. On me parle du Centre Évasion rue Jean Talon. On a une cible dit qu'ils offrent des courts séjours là, pour donner une pause. On me parle aussi des maisons Gilles-Carle. Et puis, bonne chance à tous ceux qui vivent ça. On se retrouve demain, tout le monde.